Vous écoutez France Culture.
Le magazine de l'environnement avec ce matin pratiquement un scoop, ou presque, puisque ça vient tout juste d'être publié, une émission autour du méthane avec Benjamin Dessus et Bernard Laponche. En fait, ça commence un peu comme une énigme policière, et d'ailleurs Bernard Laponche, je crois que vous êtes un amateur du genre policier. Ça commence lorsque Benjamin Dessus et vous-même, ou vous-même, l'un des deux, je ne sais trop, sursaute à la lecture, pourtant guère palpitante, il faut bien le dire, d'un rapport du GIEC, ou peut-être même pas d'un rapport du GIEC, mais d'un texte qui serait un commentaire, une application des données du GIEC. Alors, ce que j'ai dit est déjà suffisamment obscur et brumeux et mystérieux. Donc, je compte sur vous pour jeter une lumière sur cet épisode tout à fait inattendu de l'affaire et de l'histoire du réchauffement climatique de notre planète. Qui veut commencer ? Benjamin Dessus.
C'est une vieille histoire. Moi, je me souviens qu'en 92, je m'étais posé des questions sur la mise en eau du barrage de Petit Saut en Guyane, où on faisait 400 km² de barrage, parce que c'est tout plat en Guyane, dans un barrage ça prend beaucoup de place, et on ne coupait pas la forêt parce que c'était fatigant de couper la forêt. Et je m'étais dit, quand l'eau va envahir tout ça, toute la biomasse qui est dans toutes les feuilles vont faire du méthane, est-ce que ce méthane va pas tout bousiller l'effort qu'on aura fait d'avoir mis de l'eau, de faire de l'hydraulique plutôt que du charbon. Et j'avais montré que pour les 50 ans qui viennent, c'était bien pire que d'avoir fait une centrale à charbon en Guyane. Ça a été assez mal vu à l'époque. Quelques temps plus tard, j'ai écrit un article dans Libération en disant attention au méthane, n'oublions pas nos ordures ménagères dont on s'occupait très peu à l'époque. C'est quelque chose qui est aussi important que nos politiques de substitution d'énergie pour le gaz carbonique, etc. Puis tout ça s'est un peu oublié, c'était dans une ambiance telle que personne n'a relevé. Personne n'a relevé
l'ambiance
la chose.
Dont vous parlez, c'est le fait que on s'était déjà, d'une certaine manière, polarisé sur le gaz carbonique, le CO2.
Surtout, on imaginait que nos problèmes seraient vers 2150. C'était pas pour nous, c'était pas pour nos enfants, c'était pas pour nos petits-enfants, c'était pour nos arrière-petits-enfants. Depuis, vous voyez bien que la situation a changé, on se repose la question en 2005 ou en 2008, à un horizon qui est celui de ce siècle. Et entre 2050 et 2100, on risque vraiment d'avoir déjà beaucoup trop chaud. Donc les choses ont un peu changé. Plus récemment, moi j'ai lu le Grenelle, le rapport du Grenelle de l'environnement, et j'ai trouvé que la mention du méthane, comme des autres gaz à effet de serre, comme par exemple l'oxyde nitreux, n'existait même pas dans le rapport. Pendant ce temps-là, mon collègue Bernard Laponche, ici présent, qui est beaucoup plus au courant des affaires de l'Europe, regardait dans les conseils européens, ce qu'on disait du méthane et du réchauffement. Et je lui passe la parole, parce qu'il a fait à peu près le même constat.
C'est-à-dire qu'on ne parle pas plus du méthane en Europe qu'en France, dans le Grenelle.
Non, c'est très général. Et en fait, moi, c'est amusant, parce que je me suis aperçu de cette histoire bien plus tard que Benjamin, sur une question méthodologique, pas sur une question pratique du type barrage. C'est que je travaille en Tunisie et ils font pas mal de publications sur les questions climatiques. Je suis tombé sur une plaquette où il y avait des coefficients d'équivalence entre la valeur des émissions de méthane et la valeur des émissions de gaz carbonique. Équivalence que tout le monde utilise, et puis on verra par la suite justement les problèmes qu'elle pose. Et moi à l'époque, comme tout le monde dans notre milieu qui n'est pas spécialement pointu sur les questions climatiques, On avait l'impression que le CH4 était 21 fois plus efficace ou disons mauvais pour le climat que le CO2. Point. Et sur cette plaquette, il y avait...
C'est-à-dire, attendez, on va peut-être tout de suite préciser qu'une tonne de CH4 est équivalente
à 21 tonnes de gaz carbonique.
De gaz carbonique, voilà. Donc, et c'est ce type d'équivalence qui est employé en permanence.
C'est ce type d'équivalence qui est employé en permanence. Et il y avait le tableau des équivalences et un astérisque en bas de page, ce qui est rare maintenant, ça a disparu, une explication, valeur à 100 ans. Alors j'ai commencé à faire une enquête autour de moi, qu'est-ce que c'est que cette valeur à 100 ans ? Des réponses soit
valeur
vagues.
À 100 ans du CH4, du méthane.
Non, valeur à 100 ans, c'est tout ce qui est marqué.
Valeur à 100 ans.
Valeur à 100 ans. Bon, donc c'était mystérieux et c'est là que j'ai commencé l'enquête et qu'on est rentré dans les rapports du GIEC, des rapports sur le climat, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, et on s'est aperçu qu'effectivement, ce coefficient d'équivalence, donc de 21, était calculé comme le rapport des effets sur le climat ou sur le réchauffement climatique de l'émission d'une tonne ou d'un kilo de méthane comparé à l'effet sur le climat, l'effet intégré sur le climat du gaz carbonique sur une période de 100 ans.
Alors, sur une période de 100 ans ou dans 100 ans ?
Et c'est l'intégrale des effets, c'est-à-dire le résultat dans 100 ans. Mais ce résultat D'accord. est obtenu par l'ensemble des effets sur toute cette période. Et donc, cette définition donc, qui permet de traduire des émissions de méthane en tonnes d'équivalent gaz carbonique, donne donc une conception de l'effet du méthane, mais qui est chaque fois repoussé sur une période de 100 ans. C'est-à-dire, si vous faites une émission en 2000, vous la comparez à une émission de CO2 en 2100. Si vous le faites en 2010, en 2110, 2020, 2120. Et donc, l'effet du méthane par rapport au gaz carbonique est chaque fois reculé de 100 ans, renvoyé à 100 ans. Or, ce qui est important... Justement, Benjamin l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on nous a dit que l'année 2050 était très importante, enfin que les effets climatiques étaient plus dangereux ou plus forts que ce qu'on craignait. Et donc, renvoyer tout à 100 ans n'est pas correct. Il faut au moins dire quels sont les effets comparés du méthane et du CO2 que j'émets aujourd'hui en 2050 ou en 2100. Et là, on s'aperçoit que ce fameux rapport des effets qu'on appelle le potentiel de réchauffement global du méthane, sa valeur varie beaucoup avec le temps, avec la période.
C'est-à-dire qu'au cours de cette période de 100 ans, elle n'est pas ni stable ni décroissante de manière régulière, dirons-nous.
Et comme les valeurs, comme la teneur du CO2 dans l'atmosphère diminue, que la teneur du méthane aussi diminue, mais suivant une pente plus rapide, une courbe plus rapide, ce rapport des effets varie à peu près de 100, la valeur 100, à 1 ou 2 ans, ou à 5 ans, et puis il passe par une valeur à 20 ans, qui est de l'ordre de 70, à 50 ans, qui est de l'ordre de 50, et etc. Et donc, si je m'intéresse à qu'est-ce qui se passe dans 50 ans, ce qui nous intéresse aujourd'hui, autour de 2050-2060, l'effet d'une émission de méthane aujourd'hui est deux fois ou trois fois plus important que ce qu'on croit en prenant l'équivalence comme on le fait actuellement.
C'est-à-dire que la situation est deux à trois fois plus grave que ce qu'on a imaginé, ou pas exactement ?
On ne peut pas dire que c'est plus grave ou moins grave, parce que quand les climatologues ont fait leur modèle, ils ont pris la précaution de regarder à un moment donné, 2020 par exemple, faire une projection, ou aujourd'hui en 2008, qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère ? Il y a tant de tonnes de CH4, il y a tant de tonnes de CO2, il y a tant de tonnes de N2O. Ils ont appliqué des coefficients d'absorption, c'est-à-dire ce qu'absorbe l'atmosphère des rayonnements infrarouges qui sont émis par la Terre, et ils calculent comme ça la température à laquelle on peut s'attendre. Donc ça, jusque-là, c'est parfait. Donc, les climatologues, eux, ne se sont pas plantés. Par contre, ils nous ont dit, et ils nous disent, si vous voulez ne pas dépasser 2 degrés ou avoir des chances de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique à l'horizon 2150, il faut deux choses. Il faut d'abord, ou trois choses même, diviser par 2 vos émissions de CO2, ce que tout le monde sait maintenant au monde, ce qui fait 4 en Europe, mais 2 au niveau mondial, d'ici 2050. Il faut aussi diminuer vos émissions de méthane de 30% ou 35%, et vos émissions de N2O, l'oxyde nitreux, à peu près la même quantité. Et c'est si vous faites ça, vous arriverez à ne pas dépasser les normes. Bien. Deuxième recommandation de leur part, d'ailleurs, attention, il faut le faire assez vite, parce que si vers 2050 ou 2060, vous arrivez à des taux nettement supérieurs à la concentration finale, on imagine comme étant 400 ou 450 parties par million, à ce moment-là, vous n'y arriverez jamais. On n'y arrivera plus jamais. Il ne faut pas trop dépasser. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle
un over-shoot. C'est-à-dire qu'il y a un effet de seuil,
au-delà duquel on aurait énormément de mal à revenir à une situation. On a une espèce de situation irréversible. Donc, les deux choses qu'ils nous disent, c'est un, il faut diminuer l'ensemble des gaz à effet de serre, dont 30% de méthane. Et deux, il faut le faire suffisamment vite pour ne pas avoir trop d'ennuis. Bien. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que la question se pose pour nous, décideurs, pour les décideurs en général, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'émissions? Ça veut dire qu'il faut respecter des émissions de CO2, qu'il faut aussi respecter des émissions de N2O et des émissions de CH4. Et si on s'est intéressé au CH4, c'est parce que justement, son action à court terme est importante. Pourquoi son action à court terme est importante? Parce que, certes, la teneur du CH4 dans l'atmosphère tombe assez rapidement, parce que c'est la durée de vie. Il se transforme assez vite dans l'atmosphère en autre chose. Mais par contre, son pouvoir d'absorption est bien, bien supérieur à celui du gaz carbonique.
C'est-à-dire que sur le temps bref pendant lequel il est absorbant,
Il est 100 fois plus, en gros 100 fois plus absorbant. Par contre, il décroît plus vite. Mais vous voyez que quand on regarde ce qui va se passer sur 100 ans, ces premières années où il est très présent comptent beaucoup sur l'ensemble des 100 prochaines années ou des 50 prochaines années, parce que le coefficient d'absorption est très important.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le calcul à 100 ans n'est pas pertinent au sens où ce sont vraiment les 20 années à venir qu'il est très important de considérer.
Pas seulement les 20, les 50 ans, si vous voulez. 50. Tout le monde imagine que il faut qu'on atteigne une cible, la cible qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire 450 ou 470 parties par million en volume d'équivalent CO2 vers 2070 ou 2080. Donc notre horizon, c'est plutôt 50 ans maintenant, 50, 60 ans. Donc à ce moment-là, le calcul à 100 ans n'est plus très pertinent.